Radio Kapi.
Patience Ngalula, la présentation. À la une de ce journal, la tragédie au sud Kivu, 150 abris de déplacés de guerre et enfouis massifs hiver Kalehe ont pris feu la nuit d'hier à ce mercredi. En tout cas, l'origine de cet incendie reste inconnue selon nos sources. Le gouvernement congolais s'en va en guerre contre la vie chère au pays. Des mesures sont prises dans ce sens pour soit alléger la fiscalité sur les importations, soit pour supprimer les taxes et redevances sur des produits de première nécessité. Notre invité est le coordonnateur de la synergie des missions d'observation citoyenne des élections. Dans ce journal, Luc Loutala regrette que le processus électoral en cours n'ait pas consolidé la démocratie en RDC. Bonjour. 150 abris des déplacés de guerre et enfouis massifs hiver Kalehe ont pris feu la nuit d'hier à ce mercredi. Cet incendie, dont les victimes ignorent l'origine, s'est produit à Boudjeri, village Kisinji, groupement de Bouzi, chez Feri Bouhavu, dans les territoires de Kalehe. Aucun bien n'a été sauvé et les déplacés vivent dans un dénuement total. Le président du cadre des concertations de la société civile du groupement de Bouzi, James Moussangaya, sollicite une assistance d'urgence en faveur de ces déplacés.
C'était au crépuscule, un fait dont l'origine n'a pas été encore déterminée, a atteint le site des déplacés vivants sur la colline de Bougueri. Ici, nous sommes dans le village de Kishinji, l'un des 13 du groupement de Bouzi, dans les territoires de Calais, ce mardi 13 août 2024. Ainsi, plusieurs familles de déplacés ont passé la nuit à la Belle Étoile, avec probablement la disparition de plusieurs biens essentiels. D'après nos sources sur le site, l'effet serait provenu du bloc 3 avant d'embraser les trois autres blocs et que tout était fait pour l'éteindre mais sans succès et que jusque vers 19h30 à 20h, au moins 150 hits, communément appelés Kivera, étaient déjà devant un fait accompli. C'est un dégât donc considérable pour lequel nous demandons une intervention urgente en vivre et à nous vivre pour cette population qui est en difficulté.
Du côté de l'Ituri, deux personnes ont été tuées, d'autres prises en otage et une dizaine de maisons incendiées. Tel est le bilan encore provisoire de l'incursion mardi des rebelles de ZDF dans le village Madoudoudou, à 3 km de Mungamba sur la route nationale numéro 4. D'après des sources locales, cette attaque a provoqué un déplacement massif des populations vers Loloa et Mungamba où une psychose s'observe parmi des centaines de passagers dont les véhicules sont bloqués dans un bourbier. La société civile déplore le faible effectif des militaires sur cet axe routier pour contenir la menace de l'ennemi. Ezekiel Mousalia.
C'est autour de 23h qu'un groupe de rebelles d'ADEF disséminés depuis environ 2 semaines dans la forêt de Loloa, dans le territoire de Mambasa, ont pris d'assaut cette petite bourgade à 3 km de Mungamba, à la limite avec le territoire d'Irumu sur la RN4. Ils ont tiré plusieurs coups de feu en l'air, créant une panique dans la zone. Ces rebelles se sont ensuite dirigés vers une position des militaires des FARDC vers la cité des Banakongo, qui se sont repliés faute d'effectifs suffisants dans la localité voisine, indique des sources de sécurité. Deux personnes dont une femme ont été tuées, deux autres grièvement blessées et 13 maisons incendiées par les rebelles, ajoutent les mêmes sources. Cette attaque a provoqué un mouvement des populations à Mungamba, Loloa et Komanda Centre. Alphonse Mouté, président de la nouvelle société civile congolaise locale, précise que ce bilan est encore provisoire, d'autant plus que d'autres personnes ont été amenées dans la brousse par l'ennemi. L'ONG Coalition Associative et Résolue pour la Défense des Droits de l'Homme, Coardo, demande à l'armée de renforcer l'effectif des militaires pour contenir la menace de ces hors-la-loi dans cette région où plusieurs véhicules sont bloqués suite à la dégradation de la route. Bounia, Ezekiel Mousalia, Radio Okapi.
Pendant ce temps, au Nord Kivu, plus de 380 000 personnes déplacées sont de retour dans leur village en territoire de Rutshuru. Ceci ressort du rapport mensuel du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires rendu public ce 13 août et couvrant les mois de juillet dernier. Otia relève aussi la situation sécuritaire qui reste toujours préoccupante, notamment dans les territoires de Rutshuru et de Masisi. Bernard Nyangi.
Reliant le rapport de la Commission Mouvement de Population, OCHA parle de ces 382 000 personnes qui sont retournées dans l'espace des zones de santé de Kibirizi, Birambizo et Bambo en territoire de Rutshuru entre mars et début juillet 2024. Elles proviennent de l'axe Nyanza-Lekikou-Kukunya-Bayonga ainsi que des agglomérations du sud de Lubero et du groupe Maïkobo au territoire de Walikale où ils avaient fui l'avancée de la rébellion du 1-23. Ce rapport déplore le manque d'accompagnement de ces retours spontanés. Du coup, ces retournés ne bénéficient d'aucune assistance malgré les besoins en santé, nourriture, abri et accès à l'eau qu'ils présentent. Pendant ce temps, la situation est loin d'être calme dans cet espace occupé toujours par les rebelles du 1-23. En territoire de Massissi, malgré la trêve humanitaire annoncée le 5 juillet, Ocha revient sur les affrontements vers le 10 juillet sur l'axe Kirumbu-Pati chez Fride Bachali, ainsi que dans la zone Katoï, suivi des bombardements de la part des rebelles du 1-23 sur Kiroche et Buremana, qui avaient fait au moins 8 morts parmi les civils entre le 15 et 16 juillet. D'autres affrontements ont été signalés durant le même mois dans le groupement de Binza et de Bambo dans le territoire de Rutshuru. Goma, Bernard Ndengangi, Radio Kapi.
Lutte contre la vie chère en RDC. Les conseils des ministres de vendredi de la semaine dernière avaient arrêté un train de mesures dans ce sens. Elles visent ces mesures à redonner du pouvoir au panier de la ménagère. Le ministre de l'Économie nationale, Daniel Moukoko Samba, est revenu sur ces mesures au cours du briefing de presse avec le ministre de la Communication, Patrick Muyaya, pour donner plus d'éclairage. Daniel Ntambizoni.
Le gouvernement a décidé d'alléger la fiscalité sur les importations de 9 produits, à savoir la viande, la volaille, le poisson salé, le lait en poudre, le riz, le maïs, l'huile végétale et le sucre. Tous les droits, taxes et redevances se sont supprimés sur le maïs et la farine de maïs. Pour les autres produits, ces charges qui représentent 24 actes générateurs de recettes pour les services publics sont réduites de 5, 25 et 50%. Daniel Moukoko Samba, VPM en charge de l'économie, explique ceci par le souci de privilégier le bien-être des Congolais face aux services de l'État qui bénéficient de ces frais. Il met en garde et promet des sanctions contre tous les opérateurs qui voudront se passer de ces mesures. Un décret de Madame le Premier ministre est attendu le plus vite possible pour l'entrée en vigueur de ces mesures. Il va être contraignant pour tous les établissements publics, soutient le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale. Le VPM a aussi annoncé pour cette semaine une rencontre avec les importateurs pour harmoniser les vues en ce qui est des anciens stocks disponibles au pays. Seules les nouvelles commandes vont bénéficier de ces mesures de lutte contre la vie chère en RDC.
Bientôt 2 mois depuis le désengagement de la MONUSCO dans la province du Sud Kivu. Pour assurer une transition qui n'offusque les gouvernements ni ses partenaires, une feuille de route s'avère indispensable. Un atelier de réflexion sur les mécanismes liés à la gestion de la transition se tient à Bukavu du 13 au 14 août courant. Les vice-premiers ministres et ministres du plan a donné les coups d'envoi hier à partir de Kinshasa par visioconférence. C'était aux côtés du coordinateur résident des agences du système des Nations Unies, Bruno Lemarquis, qui assume en même temps l'intérim de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Le gouverneur du Sud Kivu, professeur Jean-Jacques Pouroussi, revient sur l'utilité de cette feuille de route au micro de Jean Kassami.
Cette feuille de route est très très importante parce qu'elle trace les voies et moyens par lesquels notre pays va prendre en charge les questions liées à la protection de la population civile, à la reconstruction et au développement de notre province et des entités laissées par la MONUSCO. Elle explique clairement que la RDC se sépare de la MONUSCO en très bons termes. Elle reconnaît très très bien la contribution de la MONUSCO pendant plus de 2 décennies déjà pour la paix, la sécurité, la stabilité, la reconstruction du pays. Et donc, nous avons commencé effectivement à prendre en charge les dépenses liées à la protection de la population civile. Comme vous le savez très bien, les 7 bases militaires qui ont été laissées par la MONUSCO ont été récupérées par notre force de défense et de sécurité, à savoir les FARDC, la police nationale congolaise et les services de renseignement. Nous avons aussi commencé des travaux de voirie urbaine pour aménager des tronçons qui connectent ces différents territoires affectés. Nous sommes en train de lutter pour la promotion et la protection des droits humains aussi.
Notez que le budget pour matérialiser la feuille de route est de 57 millions de dollars américains. L'État congolais, à travers l'annonce faite par le vice-premier ministre en charge du plan, s'engage à décaisser la moitié. Le reste revient aux différents partenaires du gouvernement. Cette feuille de route est applicable au territoire de Fizi, Uvira, Mwenga, Kalehe et la ville de Bukavu. Les génies scientifiques congolais désormais mis à contribution pour booster les pays. C'est dans ces cadres que s'est ouvert ce mardi 13 août ici à Kinshasa, dans la salle des banquets du Palais du Peuple, le second forum du génie scientifique congolais. Ces assises qui dureront jusqu'au 29 août prochain permettront à plus de 300 chercheurs, inventeurs et innovateurs venus des quatre coins du pays d'exposer les prototypes de leurs inventions. D'après le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Gilbert Kabanda, il s'agit désormais d'un encadrement politique qui manquait aux scientifiques congolais pour permettre une éclosion scientifique au pays. Il l'est dit ici dans cet extrait que nous propose Jacques-Yves Molima.
Le second rang du forum, c'est que c'est la continuation de ce que nous avons initié l'année passée. Nous aurons l'exposition des productions scientifiques et technologiques de nos chercheurs. Vous avez assisté le 26 juin de cette année-ci à une cérémonie au cours de laquelle la Première ministre a réceptionné une brochure comprenant 65 inventions, innovations qui sont prêtes comme prototypes à être injectées dans le développement socio-économique du pays à travers le programme du gouvernement. Alors je vous parle, le gouvernement est en train de prendre les dispositions pour que ces prototypes soient financés. Je suis en train de prendre des mesures pour qu'ils soient protégés. C'est l'encadrement politique avec tout ce qui en découle pour que le cerveau congolais, le génie congolais commence à s'exprimer, à créer, à inventer et donc à construire le pays.
Direction la province du Congo central où les gouverneurs des provinces Nkwanga Maswangi Bilolo Grass ordonnent la reprise immédiate des travaux d'électrification du secteur d'Engeba dans les territoires de Madimba dont les projets étaient abandonnés. Décision prise au cours de la réunion qu'il a tenue hier lundi 12 août 2024 au gouvernorat avec le ministre provincial de l'énergie, les directeurs provinciaux de la SNEL, les élus provinciaux et les notables de Madimba. C'est après l'alerte sur l'abandon en plein air de plusieurs matériels électriques au grand séminaire de Maïdi en territoire de Madimba. Au cours de cette réunion, une mission d'enquête a été diligentée afin de faire un état des lieux avant la relance proprement dite de ces projets dans une courte échéance. Nana Plurich Mambou pour les reportages.
Les secteurs d'Engeba avec ses deux grandes agglomérations, dont l'Infou et les grands séminaires de Maïdi dans les territoires de Madimba au Congo central, n'a jamais été électrifié alors que tous les équipements devant l'éclairer sont disponibles. À en croire Mirogène Seka, un des leaders d'opinion du territoire de Madimba, ces matériels électriques, notamment les câbles de diverses marques, les transformateurs et autres, sont en état d'abandon sous les arbres au grand séminaire de Maïdi, faute d'une somme de 55 000 $ pour la main-d'œuvre des ingénieurs devant mettre en exécution ces projets. Pendant ces temps, la population broie du noir et vit l'insécurité sous toutes ses formes. Cette absence de l'électricité met en mal aussi les activités socio-économiques du milieu. Le gouverneur des provinces a, au cours d'une réunion avec les ministres provinciaux de l'énergie et les directeurs provinciaux de la SNEL, ordonné la relance immédiate de ces projets et s'engage à disponibiliser les moyens nécessaires pour son achèvement. Rappelons que les projets de l'électrification du secteur d'Engeba et ses environs a été lancé par la SNEL depuis 2016 et faute de moyens, il est en arrêt. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, ces sit-in du collectif de jeunes leaders des Mwanda hier mardi au ministère de la Justice à Kinshasa. Ils demandent au ministre Constant Mutamba de faire accélérer les dossiers judiciaires sur la gestion des 10 millions de dollars issus de l'avenant 9 signé entre la RDC et l'entreprise Perenco, argent destiné au projet de développement du territoire des Mwanda. Ces jeunes estiment que ce montant est mal utilisé. Ils accusent les comités de gestion de ces fonds de détournement. Autre précision avec Nonsaya Masiki.
Pour le président du collectif des jeunes leaders de Mwanda, il y a bel et bien détournement car dans le concret, rien de visible n'est fait sur terrain à Mwanda. Armel Loubadika.
Les communautés locales avaient voulu à ce que cet argent puisse servir en premier en électricité, réhabiliter des routes de dessertes agricoles et appuyer la desserte en eau potable. Rien a été réalisé. Mais on nous apprend que la structure demande un montant supplémentaire au chef de l'État sous prétexte de pouvoir financer d'autres projets. Le ministre de la Justice doit se impliqués.
Le ministre Constant Mutamba, qui les a rencontrés, les a rassurés en ces termes.
J'ai fait rapport au président de la République et nous prendrons des mesures. Je vais écrire aux responsables qui suivent ces dossiers pour faire accélérer l'instruction que vous dites être déjà en cours au parquet de la Gombe. Soyez calmes, regagnez vos maisons, en sachant que la justice va suivre ces dossiers. L'argent que les chefs de l'État a donné pour Mwanda doit servir au développement de Mwanda et non l'achat des parcelles à Kinshasa.
Le comité de gestion des fonds de Mwanda a toujours rejeté ces allégations. Il affirme que cet argent est bien utilisé et que même le contrôle de l'inspection générale de finances le certifie.
Actualité internationale.
Des négociations sur un cessez-le-feu au Soudan s'ouvrent ce mercredi 14 août 2024 à Genève. Lundi, les États-Unis ont indiqué depuis la Suisse vouloir lancer les discussions, même en l'absence des représentants du gouvernement soudanais. Le gouvernement allié de l'armée soudanaise a émis de sérieuses réserves sur l'approche américaine concernant ces pourparlers.
L'invité.
La synergie des missions d'observation citoyenne des élections CIMOCEL regrette que le processus électoral en cours n'ait pas consolidé la démocratie en RDC. Invité de Radio Kapi, son coordonnateur Luc Luktala note 20 défis à relever pour que les prochains processus électoraux corrigent le fait saillant observé et permettent au pays de respecter la loi en vigueur. Il cite entre autres les défis de respect des heures d'ouverture et fermeture des bureaux de vote et de lutte contre la corruption des électeurs. Luc Luktala s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour, monsieur le coordonnateur.
Bonjour, monsieur Blaise.
La CIMOCEL vient de dévoiler son rapport intermédiaire sur les processus électoraux. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces documents?
Ce document dévoile les conclusions cumulées des deux méthodes d'observation électorale. Ça veut dire l'observation classique que nous avons faite. Et là, nous avons cumulé, comparé avec le sondage d'opinion des parties prenantes. Et ce sondage a concerné 690 participants de 19 provinces qui comprennent à la fois les membres de la société civile, les partis d'opposition, la majorité, les confessions religieuses, les syndicats, les chercheurs universitaires. On doit retenir que sur base de ces deux conclusions, nous avons un mariage qui nous indique que le processus électoral va mal, il laisse une situation plus inquiétante et que par la suite du temps, lorsqu'on considère les trois phases électorales, que ce soit la phase préélectorale, que ce soit la phase électorale, que ce soit la phase postélectorale, il se dégage 60 sur les 29 opérations que la CIMOCEL a observées et suivies. Il y a 60 faits saillants. Des faits saillants, c'est des faits sur lesquels on peut épingler la violation de la loi ou la violation des bonnes pratiques. Et que sur ces 29 faits saillants, nous avons dégagé 60 faits saillants, nous avons dégagé 29 défis. Les défis, c'est des sortes de recommandations, des efforts qu'il va falloir faire pour que le prochain processus électoral corrige les faits saillants qui ont été observés et qu'on revienne au respect de la loi et au respect de ce qu'on appelle les principes directeurs qui confortent les élections démocratiques.
Est-ce que nous pouvons savoir quelques-uns de ces défis?
C'est d'abord le défi, quand vous prenez les réformes électorales, que les réformes soient consensuelles. Ça, c'est déjà la première chose. Le deuxième défi, c'est le défi de respect de la loi par la CENI. Lorsque vous prenez les opérations telles que l'opération d'enregistrement du fichier électoral, l'affichage des listes, la centralisation des résultats, la gestion des opérations, notamment ce qui concerne les heures d'ouverture, des fermetures des bureaux de vote, vous trouvez beaucoup d'irrégularités quand vous les confrontez à la loi et aux principes directeurs. Mais les défis, c'est aussi par rapport aux cours et tribunaux. Lorsque vous prenez la Cour constitutionnelle qui revient sur ses propres arrêts dans le fond, ça pose un problème. Et vous avez aussi les défis que beaucoup d'arrêts des cours et tribunaux ont été confrontés ou qualifiés d'irrégulières et des frauduleuses. Mais en même temps, vous avez du côté des parties prenantes, c'est des campagnes précoces, c'est le vol de matériel à CENI, c'est la corruption, c'est des votes parallèles. Mais en même temps, vous trouvez qu'il y a une double sanction, n'est-ce pas? Lorsque on dit qu'il y a deux listes des gens qui avaient volé les matériels électroniques des votes, on sanctionne des gens qui sont sur une liste, on en laisse d'autres, ça pose un problème de morale.
Quel est selon vous l'impact de ces rapports plus de 7 mois après les élections générales?
Ce rapport a l'importance de se dire, nous savons d'où nous venons, et nous savons où nous voulons aller. C'est un rapport, à mon avis, qui doit être diffusé auprès de toutes les parties prenantes pour que chacune des parties prenantes réfléchisse dans le fond. Est-ce que les élections que nous avons vécues sont celles que nous voulons pour notre République?
Qui répondez-vous, messieurs les coordonnateurs, à ceux qui se posent des questions par rapport au degré de rationalité de ces rapports élaborés après avoir interrogé 690 personnes dans un pays de plus de 80 millions d'habitants?
Ce rapport est, qui s'est conformé à des plus hautes normes d'objectivité, parce que c'est d'abord ça, et qui a été inclusif. Ça veut dire, on a un échantillon qui a représenté les différentes tendances de ce qu'on peut appeler les parties prenantes au processus électoral en République démocratique du Congo. Donc le rapport est hautement conforme aux normes. D'ailleurs, vous allez voir, il n'y a aucun rapport qui atteint 2000 personnes.
Monsieur Luc Loutala, nous vous disons merci.
Merci à vous, monsieur Blaise.
Et c'est la fin de ce journal. Debs Vita a assuré sa mise en onde sous la supervision et coordination de Martin Sebudjangwe et Blaise Shindani Kambala. À la présentation, Patience Ngalula Mbombo. Merci à vous tous de l'avoir suivi.